Mulhem, l'inexorable monotonie. Dès l'âge le plus tendre, Jonathan Bridge ne s'étonnait de rien quand il s'agit de certains Yankees. S'était passionné pour la science. Et certains jours, il crut avoir fait une découverte. Il imagina que le courant électrique et les forces qui l'accompagnent n'avait d'autre cause qu'un changement brusque opéré par le frottement ou l'action chimique dans la direction nouvelle de molécules dont se compose le corps électrisé. En d'autres termes, car on ne saurait être trop clair en de tels sujets, et de plus, le présent récit touchant à des questions essentiellement conjugales, il est nécessaire d'éviter l'accusation d'obscurité que l'honorable lectrice peut-être formulerait. En d'autres termes, donc, Jonathan supposa que les phénomènes de l'électricité ne proviennent de la rapidité instantanée avec laquelle les molécules dérangées par l'opération reprennent leur place primitive. La suite de l'histoire, on ose l'espérer, dissipera ce qui resterait encore de diffus sur ce sujet. Et maintenant, revenu à la plus simple expression. D'ailleurs, Jonathan n'extagea plus tard qu'une importance secondaire à cette hypothèse enfantine et ne la rappelait volontiers que parce qu'elle était devenue le point de départ d'une seconde trouvaille, selon lui, bien autrement importante. Mais dans l'intervalle, Jonathan Bridge avait achevé ses classes sans révéler aucune disposition au succès pratique. Il était devenu le mépris de la famille, imbu de positivisme, la risée de ses anciens camarades d'école, déjà tournés en marche vers la fortune. Il avait dû, pour subsister, prendre une place de simple commis dans l'établissement de Madame Sharp, la modiste la plus en vogue à Baltimore. En matière de tenue de livres et de rédaction de factures, Jonathan était dans un merveilleux paras de supériorité et d'ingéniosité et de l'entraide à tout venant qu'il était un comptable non moins expert qu'assidu. Mais lorsqu'il errait par la ville, distribuant les commandes et recueillant les recettes, il songeait sans relâche à ses précédentes investigations scientifiques et il caressait le vague espoir de s'y replonger jamais, par chance improbable. Une position si précaire leur procurait des loisirs. Or, cette chance l'attendait. Il arriva qu'un jour, la déesse Fortune laissa tomber sur lui son sourire d'or. Miss Anna Sharp, une délicieuse blonde, toute rose, et mieux que cela, l'unique héritière de la riche marchande de mode, avait remarqué puis examiné Jonathan. Elle avait deviné de l'intelligence dans ce large front au solide relief, de l'originalité sous le voile de ce regard toujours distrait. Peut-être aussi, fille d'Ève, s'était-elle acoquinée à de scrupuleuses réserves dont l'honnête Jonathan ne se départait jamais quand le hasard les mettait en présence. Toujours est-il que la séduisante demoiselle, assurée du consentement de sa mère qu'elle gouvernait en despote, dut faire le siège en règle du cœur de M. Jonathan et le harceler dans les derniers retranchements de la modestie pour qu'il se décidât à formuler la demande en mariage. Distraction à part, il apprécia toutefois l'étendue de son bonheur en apprenant qu'aussitôt l'hymen conclu, Madame Sharp réaliserait de grosses rentes sur la cession du fonds de mode et que M. Jonathan coulerait définitivement l'harmonieuse existence d'un poisson dans l'onde entre son attrayante épouse et sa providentielle belle-mère. Miss Alna, forte et prise, mais passablement puritaine et autoritaire, tint la main à ce qu'un laps de temps convenable fut réservé aux fiançailles et donna l'essor, pendant cette trêve, à tout ce que l'amour comporte d'un penchement poétique. Jonathan, de son côté, s'accoutumait graduellement à sa félicité prochaine. Un sentiment de profonde sécurité vis-à-vis de l'avenir chantait dans son cœur. Ses idées prenaient un libre vol sous le coup de l'enthousiasme. Et c'est alors que date dans sa vie la conception de la seconde hypothèse annoncée plus haut. Il vint en effet cette inspiration que l'irrésistible tendance d'un groupe de molécules à se mouvoir, selon la précédente définition électrique, dans une direction forcée, indiquait une marche analogue imposée aux molécules ambiantes et par suite à toutes les molécules de la matière universelle. Et de ce principe, il déduisit la conséquence qu'en raison de l'impossibilité du vide dans la nature, cette agglomération partielle de molécules ne saurait se produire sans qu'une configuration identique et simultanée d'une égale quantité de molécules s'effectue sur un point quelconque de l'espace. Et ce raisonnement de Jonathan Bridge se justifia à peu près par la manière évidente dont se composeraient les éléments constitutifs d'une certaine somme d'eau et d'or et d'air enfermés dans une boule de cristal. Il en conclut aussi qu'en subissant les lois illimitées de la gravitation et de la pesanteur, les atomes actionnés d'une même planète ne pouvaient aboutir au susdit mouvement similaire que dans une planète voisine et par suite dans toutes les planètes existantes. Jonathan arriva donc à regretter que les êtres, les choses, à l'infini, s'agitent dans un inflexible parallélisme qu'il décora du nom de vibration universelle. Et nous avons grande hâte de narrer à quel degré cette conviction en elle-même, d'ailleurs bien candide, le rendit heureux, non seulement sous le rapport spéculatif, mais dans toutes les circonstances de la vie publique et privée. Le beau jour du mariage était enfin arrivé, composant dès l'aurore au miroir un nœud de cravate, M. Jonathan éprouvait une extraordinaire satisfaction, car il envisageait à la fois son propre destin et celui de tous les Jonathans, ses semblables par leur agrégation native d'atomes, qui, répandus par la vibration dans l'inénarrable et incalculable multitude des univers, mettaient comme lui la dernière main à leur toilette de cérémonie, se contemplaient comme lui dans une glace, et souriait comme lui, à l'image d'un fortuné gentleman dont le sort facile glissera désormais sur des roulettes. Chacun sait, il est vrai, combien aux approches de sonalisation nuptiale, une belle-mère fut-elle presque bienveillante, une fiancée ne fut-elle que modérément tyrannique, accumule volontiers les soucis et les responsabilités sur la tête d'un futur qui leur doit tout. Mais que pouvaient ces mêmes vexations sur Jonathan, dont la rêverie voyageait dans l'incalculable probabilité des mondes, et supputait les effets du parallélisme corpusculaire. Il admirait la quantité stupéfiante de veuves Schaps qui, dans ce même instant, poussaient les mêmes cris déchirants à propos du retard des voitures. Miss Anna jetait à son promis un de ces regards par lesquels une jeune femme s'est indiquée clairement que le mieux à faire pour un homme délicat en pareille circonstance était d'aller hâter l'arrivée des véhicules. Jonathan croyait voir s'allumer et tressaillir comme une frangée d'étoiles sur l'infini, la double flamme de ce coup d'œil impérieux. La muette éloquence de Miss Anna ne prenait pas de réplique. Jonathan se précipitait sur son gibus et s'esquivait, ravi de ce que la souriante multiplicité des Jonathan partait aussi d'un pied leste, arrondissait avec une grâce non moindre le bras autour de son couvre-chef, imprimait les mêmes balancements souples au basque de son habit et dessinait quelque chose comme les figures symétriques d'une danse interplanétaire sur le rythme régulier des vibrations. Avant d'atteindre la rue, Jonathan devait traverser un salon où s'épanouissait le gai brouhaha d'une foule de témoins et d'invités, lesquels ne laissaient pas que de chuchoter entre eux sur le passage du futur des propos plus ou moins bienveillants. Concert aigre-doux, convenimait particulièrement certains cousins évincés de ses prétentions sur Miss Anna. Mais l'habile Jonathan évitait sagement d'accrocher son amour-propre à ses petites pointes de perfidie et se disait que, même en dehors des fatalités vibratoires, il n'existe guère de milieu où l'on ne se complaise à dénigrer un brillant jeune homme que l'amour et le destin protègent trop ostensiblement. Tout entier, d'ailleurs, aux conséquences kaléidoscopiques de son invention, il ne pouvait s'arracher à la persuasion qu'au même moment, dans chaque globe sidéral, le même salon de la même maison d'une autre Baltimore contenait un bataillon pareil de gentlemen vêtus de noir et de belles dames faisant papilloter les vives couleurs de leurs robes de fête dans les éclats d'argent que lançait ce jour-là le soleil printanier. Encore ébloui de cette vision, Jonathan courait jusqu'au bureau des fiacres. Il stimulait le zèle du loueur d'équipage en lui glissant un dollar dans la main et s'épouvantait, comme philosophe et surtout comme comptable, de la formidable totale que voulait constituer ce simple pourboire simultanément octroyé par toute la kyrielle polycellaire de Jonathan. C'est ainsi qu'appuyé à la loi des oscillations ubiquistes, Jonathan Bridge accordait à tous les incidents, petits ou gros, plaisants ou fâcheux, un égal et suprême intérêt. À la mairie, au temple, autant de contraintes s'imposent aux jeunes époux donnés en spectacle. Et Jonathan persistait à s'absorber dans l'étude de son système. Il voyait se reproduire comme dans les enfilades d'une rencontre de miroirs les rotondités abdominales des magistrats municipaux et les gestes onctueux des clergymen. Il regardait à la dérobée sa fiancée, incomparablement ravissante dans sa blanche parure de vierge. C'était une ivresse de pouvoir s'affirmer qu'une telle personne recevait aussi pure, aussi gracieuse, aussi douce dans toutes les régions cosmogoniques. Le grand et interminable repas nuptial du soir eut peut-être risqué de compromettre la sérénité de Jonathan si par bonheur il ne s'était égaré plus que jamais dans les bruits des assiettes à la poursuite de sa chimère. Vers l'apparition de la poire et du fromage, la plupart des membres présents du sexe réputé le plus fort se mit à parler politique. Jonathan frémit en calculant l'effroyable masse de phrases ronflantes et de paroles superflues qui se dépensait alors dans l'ensemble des centres organisés. Et lorsque, par-dessus l'arôme du café, planèrent les vapeurs du gin et du whisky, d'autres convives de la catégorie à barbe crurent devoir sacrifier aux vieilles traditions en hasardant des gaudrioles de circonstances. Jonathan gardait un silence pudique afin de ne pas augmenter la somme des propos répréhensibles que l'omnivibration était tenue de répercuter universellement. La taciturnité de Jonathan fut toutefois très critiquée, surtout par le cousin éconduit. Et lorsque, sur le coup de minuit, ils prirent congé, les invités, ainsi que très probablement leurs copies extraterrestres et hyper-célestes, aspirèrent l'unanimité que les Jonathan, sur toute la ligne morale, n'étaient que d'assez ténébreux et nébuleux. Lourdeau. Mais quelles heures de consolation paradisiaque quand, débarrassé de l'obsession des amis, en même temps que délivré des recommandations pathétiques de la belle-mère, il put admirer sans témoin la beauté de sa jeune femme et constater ce qu'elle possédait d'agrément et d'esprit. Sa félicité durant cette nuit mémorable fut d'autant plus ardente qu'elle avait commencé de la partager avec l'entière série de tous les Jonathan. Alors, tombé en extase au pied de la série correspondante des Mrs. Anna, car Jonathan ne pouvait douter que l'axiome du parallélisme moléculaire ne pût s'appliquer aux choses de la pensée comme aux manifestations de l'ordre matériel, les sentiments n'étant qu'une résultante des commotions corporelles. Et dès lors, il se flattait qu'avec lui, tous les innumérables Jonathan goûtaient les joies du cœur et les plaisirs intellectuels découverts de leur mutuelle découverte. Et pour tout dire, l'être intérieur de Jonathan semblait ne plus devoir offrir qu'une perpétuelle succession d'enchantements. Au théâtre, par exemple, relégué au fond d'une loge où trônaient sur le devant Mistress Sharp et sa fille, Jonathan voyait scintiller des myriades de lustres, se lever des milliards de rideaux, se dresser d'innombrables décors, se démener des fourmillades d'acteurs. Et le même public du même théâtre de Baltimore subissait, dans toutes les Amériques possibles, le charme et l'émotion du même opéra, du même drame, et récompensait par les mêmes ovations le talent des mêmes interprètes. Quelques-uns des spectateurs, ou les mêmes partout, s'occupaient moins de la pièce que de la mise en scène de leur propre individualité. Plusieurs dames, particulièrement, ne redoutaient pas l'expansion illimitée de leur minauderie prétentieuse et n'hésitaient pas à provoquer l'attention de l'aréopage masculin d'un bout à l'autre du fonctionnement Tony. Jonathan se complaisait à ces détails autant qu'à l'ensemble de la représentation. Tout cela s'illuminait et s'irisait dans son cerveau, comme si, au fond de ses jumelles, un cadeau de la belle-mère, son imagination s'était éparpillée à travers les prismes magiquement rétroactifs des deux immenses diamants. À la vue des collections d'art, les marbres et les tableaux devenaient pour lui les prototypes d'une inépuisable reproduction de chefs-d'œuvre. À la lecture des bons livres de tout genre, il considérait avec enthousiasme que le germe de l'humanité s'affirme dans tous les recoins de l'universalisme. Mais qui lui dit, cette dernière et touchante circonstance allait tout justement remplir de troubles une vie jusqu'alors débordante de satisfaction. Depuis plusieurs mois déjà, Jonathan éprouvait quelques remords de garder son bonheur scientifique pour lui seul. Lorsque son honorable épouse eut conquis le titre de mère, concurremment avec toutes les dames Bridge, il jugea par trop criminel de la tenir dans l'ignorance du rôle qu'elle venait de jouer dans le panorganisme, et il s'empressa d'initier enfin sa conjointe à la prestigieuse conception de l'équipollence vibratoire. L'effet de cette confidence fut terrible. Mrs. Bridge communiqua la stupéfiante abstraction à Madame Smith Sharp, et toutes deux, fixées à jamais sur l'état mental du pauvre Jonathan, ainsi que sur la valeur de ses éternelles recherches transcendantes, ouvrir contre le malheureux rêveur une guerre de persécution à outrance. Madame Bridge, enfant capricieuse autrefois, dépassait d'un coup les dernières limites de l'acrimonie, et Madame Sharp justifiait au centuple tout ce que se fulmine contre les belles-mères dans l'immonde invité par son gendre. Et le mineur, faux savant, faux américain, mangeur de notes, mauvais père. Telles étaient les moindres injures dont on accablait le novateur et qui lui intéressissait la honte jusqu'au fond de l'âme. Son intérieur jadis paisible et infailliblement tourné à l'enfer familial, horrible entre tous, s'il avait coupé court aux disputes en proférant le serment de s'atteler sur l'heure à des projets réalisables en flots de banknotes et en avalanches de dollars. Il était du reste persuadé que grâce à la double hypothèse de remplacement, de replacement des molécules par l'électricité et de leur réitération planisphérique, ce ne serait pour lui qu'un jeu de donner son nom et celui de tout le jonathanisme à la navigation interastrale. Il se hâta d'approprier à cette fin le jardinet attenant à l'immeuble de Mme Sharp, de construire un ballon, d'installer des gazomètres, de collectionner des appareils indispensables, et il ne resta bientôt plus qu'à trouver le mécanisme définitif, et Jonathan Bridge entreprit une toute dernière contre les aspérités de la science, une vraie lutte. Mais durant les rares minutes qu'il dérobait à ce travail, il s'avisa de transformations plus qu'étranges dans le caractère et l'attitude de Madame Bridge. Endoctrinée énergiquement par sa mère, Madame Bridge devenait une mondaine infatigable. Elle courait les raouts, promenait les balles, les allures d'une coquette évaporée, semblait à peine se soucier du semblant de respect obligatoire envers son mari, Monsieur Bridge, et affichait pour l'ancien cousin malmené des sympathies souverainement inquiétantes. Alors un œil immense envahit le cœur de Jonathan. Il ne pouvait se résigner à la perspective de devenir ridicule, non seulement dans sa ville natale, mais dans les innombrables rééditions de Baltimore que la loi de vibration répandait sur l'étendue. Oui, Jonathan commençait à regretter d'avoir établi la parité absolue devant la multiplicité des mondes serriés pour aller se gausser de lui. Que dis-je ? En proie aux plus noires infortunes et amertumes, Jonathan renonçait à ses thèses favorites. Il pliait carrément, il niait l'exactitude de sa découverte et il répudiait l'effort de son génie. Il ne pouvait plus de cette vibration universelle. Il n'en voulait plus qu'il avait si mal tourné. « Je suis mère, » se disait-il. « La simultanéité des oscillations. Folie et stupidité, l'équivalence des déplacements matériels. Que diable s'était-il allé mettre en tête ? Mais comment n'avait-il pas compris que le propre d'un jugement sagace, d'un esprit clairvoyant, serait de tendre à la variété, toujours, toujours et partout. Et comment lui, d'un caractère inoffensif, encore même enclin même à la philanthropie, N'étaient-ils pas révoltés de la première heure contre le danger de l'inflexible découragement et ressentant entre les planètes? Halluciné de la sorte par le désespoir, il monologua jusqu'à prétendre que la navigation transéthérienne était indirigeable et que les aérostats ne pouvaient que monter et monter toujours. Leur seule utilité devait être de transporter l'homme dans un astre différent, loin des femmes frivoles et des belles-mères par trop terrestres. Cette nouvelle fantaisie s'implanta dans sa cervelle à tel point qu'il résolut de grimper jusqu'à la planète la plus proche, c'est-à-dire jusqu'à la Lune. Se berçant de l'idée qu'il suffirait de franchir à l'état somnambulique les régions privées d'air respirable et d'atteindre le point précis où les forces de la pesanteur bifurquent à angle droit vers la sphère voisine. Fort de ce calcul, Jonathan, toujours navré, s'installa secrètement dans son aéroscaf tout neuf, prononça le « lâcher tout » qui impliquait aussi Madame Sharp et Madame Moïdge, se magnétisa d'un hypnotisme soigneux et parvint, frappé de catalepsie, aux plus hautes solitudes du ciel. Dormait-il ou non en voguant dans l'immensité bleue, il l'ignorait. Mais son esprit avait gardé la notion des incidents de voyage. Et tout à coup, le regard fixé sur les nuées planant en bas, il remarqua que la nacelle avait décrit un mouvement de biais et s'était mise à redescendre. Oh, joie profonde, exaltation surhumaine! Jonathan quittait la route territoriale et nageait dans la banlieue céleste de la Lune. Il s'arracha violemment à sa torpeur et s'apprêtait à faire une joyeuse et triomphale entrée dans ce globe inconnu dont il voyait déjà se débrouiller la superficie, où tant d'étranges émerveillements l'attendaient sans doute. Mais hélas, à mesure que se rapprochait de sa destination, il discernait les sites familiers et bientôt, tristesse amère, il reconnaissait les clochers, les cheminées d'usines, les camionnages tumultueux et la foule toujours soucieuse ou à l'ouest de sa ville natale. 10 minutes plus tard, désillusion complète, il jetait l'ancre dans un jardinet, tout pareil à celui qu'il avait quitté le matin, et tout d'abord, il y rencontrait, affectant l'inquiétude et prodiguant des reproches, une autre épouse Bridge et une seconde veuve Sharp, qui lui était un possible de ne pas considérer comme une stricte imitation des deux femmes dont il avait tenté de se délivrer par l'exil ascensionnel. Hélas, les deux planètes se copiaient fidèlement. L'admirable prévision de la réciprocité des mouvements corpusculaires passait à l'état de vérité mathématique. Jonathan avait sous les yeux la démonstration rigoureuse de sa découverte. À sa très grande gloire, mais à son plus grand regret, il possédait la preuve que tout se passe dans la Lune absolument comme sur la Terre, et qu'enfin il n'est rien de neuf sous la fabuleuse intimité des soleils, ni dedans. Une seule consolation lui resta lorsqu'il se remis aux prises avec les ennuis du ménage, au plus fort des criailleries et lamentations, il se flattait que la présente Madame Bridge et l'actuelle veuve Sharp n'étaient que la figuration apparente ou le facsimilé moléculaire et lunaire des deux agréables créatures qu'il avait si prestement délaissées. La véritable Madame Bridge, pensait-il, et l'authentique belle-mère n'avaient plus pour plastron et souffre-douleur que l'autre Jonathan, celui qui, en raison de l'atomisme vibratoire et répercussif, avait dû nécessairement fuir en ballon de quelque planète ignorée, puis descendit dans le vrai jardin de la maison, même de l'incontestable veuve, Sharp de Baltimore.